théâtre d'Edmond Morel.
Olivier Granson, vous publiez le premier volet d'un diptyque, ce qui deviendra un diptyque, La douceur de l'enfer, c'est donc le tome 1 paru aux éditions du Lombard, d'une histoire qui paraît dans la collection signée. Et j'aimerais que vous me disiez d'emblée quelques mots sur cette collection signée qui est assez caractéristique. On dirait que les auteurs y ont une sorte de liberté qu'ils investissent volontiers.
Ah oui, c'est tout à fait comme ça que l'éditeur l'a conçu, une plage comme ça où les auteurs peuvent s'exprimer à part entière. C'est une belle collection qui a le soin de l'objet et qui permet aussi aux auteurs de travailler sur une pagination qui n'est pas définie. Et donc, voilà, d'avoir la liberté de travailler sur une histoire qui peut se découper en deux albums ou en un album de X pages à définir. Et donc, on a la liberté vraiment de s'exprimer.
Vous le saviez d'emblée que ce serait publié dans cette collection-là qui vous laissait cette liberté-là ?
Pas avant d'écrire. J'ai d'abord écrit l'histoire, mais j'avais promis aux Lombards de leur présenter. Je leur avais dit, puisque j'avais fait une infidélité en réalisant La Femme Accident chez Dupuis, je leur avais dit que j'avais dans mes cartons un projet d'album solo et que le Lombard serait le premier éditeur à qui je présenterais l'histoire, ce que j'ai fait, et ils ont tout de suite été emballés, donc voilà, ils ont accepté. Donc oui, très vite, j'ai su que ça allait être dans la collection signée.
Et dans le fond, comment est-ce qu'un auteur décide à un moment donné que l'album qu'il va faire tiendra en autant de planches ou en autant d'albums? Est-ce qu'il y a un moment, comme le peintre qui décide du format d'un tableau, c'est quelque chose qui est intriguant pour celui qui à un moment donné se trouve devant l'œuvre terminée?
C'est vrai que en travaillant sur La Femme Accident, je me suis rendu compte que travailler sur une tranche de vie en un album, même un album de 80 pages, c'était difficile. Sur La Femme Accident, au départ, ça devait être un album. C'est ce que voulait Denis Lapierre. Et puis moi, j'ai proposé de le décomposer en deux albums à partir du moment où la cassure pouvait être narrativement intéressante. Et donc, quand moi, j'ai travaillé sur mon scénario, j'ai commencé à écrire l'histoire à un moment précis qui allait devenir le début du deuxième tome. Et donc très vite, je me suis rendu compte que j'écrivais le deuxième tome en sachant que j'allais installer avant les personnages. Et donc je me suis très vite rendu compte qu'il allait y avoir deux tomes. Et j'ai très vite eu l'idée de la fin du premier tome. Donc ça a été déterminé dès le début. Ce que je ne savais pas, c'est si ça allait faire 60 pages ou 75 pages.
Alors si vous voulez bien, on va entrer maintenant dans le vif de cet album qui vient de paraître, La douceur de l'enfer. Alors la première question à laquelle j'aimerais vous confronter est une question sur la manière dont la grande histoire peut être racontée à travers la fiction, que ce soit romanesque ou que ce soit dans un roman graphique. Comment est-ce que vous situez par rapport à cette dynamique-là ?
Mais en fait, ça a été l'élément déclencheur, c'était la grande histoire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à Séoul pour une exposition avec des collègues. Et de Séoul, on est parti sur la frontière coréenne, Corée du Nord, Corée du Sud, cette fameuse DMZ que je connaissais pas, j'avais jamais vu d'image. C'est Thierry Belfroy qui était avec nous qui a eu cette bonne idée, le réflexe du journaliste d'aller sur place. Et donc j'étais embarqué sans savoir où j'allais avec un carnet de croquis, et j'ai commencé à faire des croquis sur place et à m'intéresser à quelque chose que d'abord j'avais jamais vu, que je connaissais pas, et m'intéresser à l'histoire de la Corée, pourquoi ce pays a été séparé en deux. Bon, je savais qu'il y avait les communistes au nord et la Corée du Sud au sud, mais sans plus. Je me rappelle dans mon jeune temps, j'étais passionné de géographie et je confondais toujours la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et donc voilà, c'est parti de la grande histoire. C'est en cherchant des informations sur internet au retour de ce voyage pour alimenter ce carnet de voyage, parce que ça devait être un carnet de voyage et pas une bande dessinée, que je me suis rendu compte qu'il y avait des informations vraiment intéressantes à développer. Et notamment le fait que du jour au lendemain, le pays est séparé en deux et des familles ont été séparées en deux. Et je me suis dit, c'est intéressant comme métaphore pour parler d'une famille brisée, d'une famille éclatée, de membres de famille qui ne se sont plus jamais vus et qui peut-être se revoient tout à coup un jour. Et en l'occurrence, 50 ans après la fin de la guerre, ils ont tiré au sort à Séoul une centaine de familles qui ont pu aller en autocar à Pyongyang, retrouver des sœurs, des frères qui n'avaient plus jamais vu depuis 1953. Et même chose de Pyongyang à Séoul. Bon, là, ils n'ont pas été tirés au sort, ils ont été choisis évidemment par le régime. Et ils sont revus pendant une journée, 50 ans après, pour s'échanger des émotions. Et puis, ils sont repartis chacun de leur côté. Et alors, il y a des émotions extraordinaires qui ont dû se passer. Et en même temps, des personnes qui n'ont pas reconnu le frère qu'ils avaient connu 50 ans plus tôt, parce que les régimes ont fait évidemment l'écart et ont creusé le fossé entre eux. Et donc ces éléments-là, c'était le point de départ de mon histoire. Et après, je me suis dit, bon, la Corée et la guerre de Corée, cette guerre oubliée n'intéressera personne, donc il faut que je trouve une astuce scénaristique pour que le lecteur s'identifie à un personnage. Et c'est comme ça que j'ai créé Billy Summer, qui a une trentaine d'années, qui vit à San Francisco aujourd'hui, qui, comme moi, ne connaît rien de la Corée et qui en a rien à foutre de son grand-père, qu'il n'a pas connu et qui est mort à la guerre de Corée. Et donc, il va partir, malgré lui, pour faire plaisir à sa grand-mère.
Oui, là, vous commencez à faire le pitch de l'histoire, c'est très bien, parce que c'est vrai que ça pouvait manquer à celui qui nous écoute et qui n'aura peut-être pas déjà lu l'album. C'est vrai que le personnage Billy Summer est nourri d'une certaine manière de tout ce que vous nous racontez, avoir ressenti comme émotion en vous trouvant sur place.
Mais Billy Summer va tout doucement, sans s'en rendre compte, être sensible à son grand-père, parce que sa grand-mère va mourir au début du récit. Et c'est par...
Faut-il raconter le début du récit? C'est la grand-mère qui mourante, lui demande d'aller à sa place dans un hommage qui est rendu aux dépouilles de soldats américains que l'on a retrouvés par hasard dans un charnier.
Alors, je raconte pas...
Il faut pas raconter trop. Hein,
mais... Non, voilà. Je raconte pas ce moment d'histoire parce que raconter comme ça, je trouve que c'est un peu rébarbatif, peut-être un peu lourd. Et ça a été la difficulté de mon début d'histoire, de mettre en place ces éléments-là pour pas que ça fasse il y a tel élément qui s'enchaîne sur tel autre élément et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est important.
Désolé.
Mais c'est
le déclencheur qui fait que, d'une certaine manière, Billy Summer, je découvre maintenant en vous écoutant qu'il ressemble beaucoup dans les émotions qu'il ressent dans ce voyage initiatique à ce que vous avez vécu en faisant les recherches après votre voyage.
Voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est comme ça qu'on connaît le cheminement. Mais j'aime bien que vous racontiez justement ces éléments-là parce que ça précise le contexte de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires qui s'entremêlent, l'histoire de la grand-mère, de Billy, de son grand-père, la relation des uns et des autres, et il fallait tout chevaucher, confronter, emboîter. Et le fil conducteur au début de l'histoire, c'est l'idée de mémoire, des souvenirs et des photos. Et c'est ça qui va me permettre de donner un lien à toute cette histoire.
Est-ce qu'on pourrait dire que cette histoire est celle du devoir de mémoire collective, puisque cette guerre est une guerre oubliée, mais aussi de la nécessité de la mémoire individuelle, d'aller rechercher ses racines?
Alors, la première partie, oui, mais ça m'a effleuré, j'ai pas cette ambition et cette prétention-là. Les racines, oui, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je commence cet album avec un arbre plein de pages et avec cet aphorisme d'Oscar Wilde qui parle de la mémoire et qui dit c'est...
On va le lire, il n'existe rien de plus beau que d'oublier, excepté sans doute d'être oublié. Là, il y a toute la formulation toujours un peu ironique d'Oscar Wilde.
Oscar Wilde, écrivain que j'aime beaucoup. Mais c'est ça, c'est une question de racines et une question de transmission. C'était l'idée aussi de développer à travers cette histoire le simple fait qu'on reçoit un bagage de nos ancêtres, de nos parents bien sûr, de nos grands-parents. Mais de nos grands-parents, même si on ne les a pas connus. Je crois qu'ils nous transmettent des choses. Et cette transmission, c'est un sujet que je trouve intéressant, difficile à développer. J'en aborde en tout cas une partie. Je pense qu'on peut recevoir des dons, qui viennent des arrière-grands-parents peut-être, mais on peut recevoir aussi des fardeaux qui sont lourds à porter et que dans notre vie on se demande pourquoi les choses se présentent mal, les choses se mettent mal et peut-être qu'il faut les accepter pour pouvoir continuer à grandir, à évoluer et à vivre sa propre vie.
De Billy Summer, le personnage central, pivot de l'album, vous décrivez aussi l'enfance et dans l'enfance des événements marquants, tragiques même, font qu'il se réfugie dans une forme d'onirisme qu'il s'invente avec une machine à voler notamment. Alors là c'est une très belle manière aussi de faire une sorte de métaphore de la recherche du temps oublié.
Oui, et de la recherche du spirituel. Même pour un gosse, je me suis posé la question, inconsciemment, il essaye de se détacher du monde matériel pour aller vers une dimension plus spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a quelques passages aussi sur la prière, des allusions. Voilà, je parle de vie, je parle de mort, mais je parle aussi de la question de la vie après la mort. Voilà, c'est une façon onirique aussi de prendre l'étoile comme symbole. Et ici, bon, oui, Billy a vécu quelque chose de tragique. Et c'est devenu un élément en résonance avec le grand-père. C'est que le grand-père a une tragédie qu'il a vécue. C'est d'abord sa séparation avec Martha quand il est parti à la guerre. Et puis cette guerre, en soi, c'est quelque chose de violent. Billy a aussi sa violence à lui, sa tragédie à lui. Et elles vont se développer plus dans
le deuxième. Il a vécu sa guerre à lui, enfant.
Oui, c'est ça. Il y a eu un cataclysme, il y a eu cette explosion. Mais ça va se développer dans le deuxième album. Évidemment, cette résonance, je l'ai conçue au départ un peu comme le premier volume qui est un peu le point de vue de Billy et le deuxième volume qui est le point de vue du grand-père. Après, dans l'écriture, ça a été un peu différent, mais c'est presque ça.
On a beaucoup dit dans le dossier de presse notamment, on insiste un peu sur la dimension littéraire de l'album. Moi j'ai trouvé qu'il y avait davantage une dimension épistolaire, une dimension, l'importance de s'adresser à quelqu'un qui traverse l'ensemble de l'album, depuis le grand-père qui écrit des lettres à Martin en disant tu me mens, etc., jusqu'à cette machine à voler qui est une sorte de, comme si vous écriviez une sorte de correspondance avec chacun de vos personnages. Est-ce que ça vous parle, cette approche-là ?
Ah oui, c'est inconsciemment. Mais ça me parle dans le sens où, quand j'ai dessiné la scène où Billy et Emily partent vers le phare, Billy bande les yeux d'Emily et il lui dit dans la première page « Fais-moi confiance, je t'emmène ». Et c'était un peu ça aussi, c'était un peu cette façon d'emmener le lecteur et de communiquer avec lui. Évidemment, les choses se mettent en place, on se rend compte qu'elles fonctionnent. Et puis après, voilà, je scrute pas plus loin pour savoir le pourquoi et le comment. Maintenant, pendant l'écriture de cette histoire, j'ai perdu mon filleul. Et évidemment, l'histoire était imprégnée de sa présence, de la complicité que je pouvais avoir avec lui. Et donc, c'est vrai que ça a apporté une dimension en plus. Il y a eu des résonances à certains moments après sa mort, notamment le passage des étoiles. C'est un passage qui est lié à lui, quoi.
C'est vrai qu'on se rend mieux compte en entendant cela de l'importance de la transmission et de la spiritualité. Les deux sont mêlés. Il y a une sorte de quête du spirituel chez l'enfant ou chez l'adulte face à la perte.
Oui, mais quand j'ai commencé à écrire l'histoire, je pensais pas aller si loin. Les choses. Bon, elles sont. Je crois qu'en écrit, il y a des choses en soi qui doivent sortir. Et puis, le dessin est un excellent moyen pour exprimer sans les concrétiser ou sans mettre des mots. Et donc voilà, moi, j'ai commencé à écrire l'histoire. C'était l'histoire d'un Américain, un soldat américain. Ça aurait pu être un Belge. À un certain moment, je me suis posé la question parce qu'il y a une.
C'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire de la Belgique un contingent
qui est parti en Corée. Mais j'aimais bien la confrontation entre la démocratie américaine, la puissance américaine et puis le communisme nord-coréen, ces deux pays tellement opposés. Donc je trouvais que c'était évident, si je voulais à un certain moment parler un peu de démocratie et de ce point de vue-là, je trouvais que... je pouvais pas ne pas en parler, hein, on en parlera dans le deuxième album. Mais c'est vrai, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, c'était l'histoire d'un soldat américain, et puis après je commence à travailler les personnages, et les personnages m'entraînent dans l'histoire vers quelque chose peut-être de plus complexe, et sans doute qui se rapproche de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de ce que je suis. Et c'est bien, et ça c'est tout le plaisir de l'écriture, c'est d'être surpris par cette évolution-là, quoi.
Est-ce que, et sans dévoiler évidemment le déroulement de l'histoire, est-ce que la dimension, la partie de l'histoire qui se déroule en Corée, et ces personnages coréens, vous les avez inventés de quelle façon? Comment sont-ils venus sous votre plume ou sous le crayon du dessinateur ou du scénariste?
Kim Ki-soon, c'était le premier personnage qui a été créé. Quand j'ai fait ce carnet de croquis, j'ai démarré l'histoire sur cette information des échanges comme ça d'une journée où Kim Ki-soon a pu revoir sa sœur en Corée du Nord. Et donc ça a été vraiment le début de l'écriture de l'histoire, et Kim Ki-soon était mon personnage principal. Et puis voilà, après je me suis dit que c'était peut-être pas l'idéal pour... Déjà, pour moi, m'identifier au personnage, j'aurais été trop distant par rapport à... Ça aurait été, oui, l'histoire de la Corée.
Mais c'est le premier personnage qui vous est venu.
Oui. C'est un personnage, j'y suis vraiment attaché, c'est pas ça, hein, mais c'est un personnage qui est important dans l'histoire. Mais c'est le premier personnage développé.
Sans à nouveau dévoiler l'histoire, on peut dire que ce personnage-là est aussi celui qui ouvre finalement les yeux à Billy Summer lorsqu'il arrive, et d'une certaine manière qui ouvre les yeux de l'occidental à ces années de l'histoire coréenne.
Il sera peu présent dans l'album, mais il sert de trait d'union. Et finalement je m'en rends compte en en parlant, il y a un côté chez lui plus comme un sage, comme quelqu'un qui a pu digérer cette séparation et cette guerre et ces fractures, et qui a trouvé un sens à sa vie. Il y a une dimension spirituelle chez lui qui est très forte. On le verra très peu, mais voilà, elle sera là. Et un peu comme le trait d'union qu'il y avait entre Martha et Théodore, et Ted Summer, c'était le cosmos, les étoiles. Et donc voilà, là il y a quelque chose qui devient cohérent, c'est le côté spirituel.
Olivier Granson, je vous remercie pour cet entretien et pour cet album, dont je rappelle le titre, La douceur de l'enfer. C'est le premier volet d'un diptyque paru au Lombard. Merci Olivier Granson.
Merci beaucoup.
Les rencontres d'Edmond Morel.